Parfait. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagné de monsieur Adjan Chellil. Salut Adjan.
Salut à tous et surtout accompagné de ce nouveau studio. C'est magnifique.
Et oui, il découvre le nouveau studio. Adjan, ah, ça te plaît ou pas?
J'adore.
C'est beau.
Non, je me sens bien. J'ai envie qu'on enregistre un podcast toute la journée, Thibaut.
Et qu'on dorme sur place.
8 heures. Ça va durer 8 heures.
Et qu'on dorme sur place. Très, très beau. On vous montre des images très vite. Hein. On finit de s'installer et c'est promis juré. On met des images sur Instagram.
On déballe les cartons et on est là.
Mais c'est vrai que c'est chouette. Très joli son, très agréable. Voilà.
C'est très, très agréable.
Donc, on a dit, youpi, c'est lundi. Quoi de neuf dans notre veille social media? Je vais commencer avec YouTube.
Allez, vas-y.
YouTube qui pense de plus en plus au micro-format vidéo. Hein. C'est clair que la plateforme YouTube ne souhaite pas rater le train des vidéos courtes après le lancement de Short courant 2020. Vous vous souvenez, Short, ce format de micro-vidéo, un peu à la TikTok, hein, format 9/16, etc. Eh bien, la plateforme a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs et aux créateurs de partager des courts extraits d'une vidéo. Ça s'appelle Clips et comme son nom l'indique, eh bien, cette fonctionnalité elle permet de partager des extraits très courts de 5 secondes jusqu'à 60 secondes quand même. Et du coup, ces clips que tu fais, donc t'as un petit outil dans YouTube qui te permet du coup de choisir quel morceau de la vidéo tu souhaites partager et tu peux la partager sur ta chaîne en tant que créateur. Donc en gros, tu peux avoir un long format, notamment un live par exemple, et puis couper dedans une 30 secondes et puis reproduire à nouveau une petite séquence de 30 secondes qui s'appelle donc un clip. Ça semble particulièrement utile sur des chaînes de type gaming par exemple, hein, avec des vidéos de live très longues ou des vidéos de jeux très longues, et ça fait vachement penser à ce que fait Twitch, hein, parce que sur Twitch t'as exactement ça, t'as ces petits clips extraits d'une séquence live un peu longue.
Ouais, et puis c'est une pratique qu'on voit sur toutes les plateformes sociales, hein. Quand on fait des lives sur Facebook, c'est très souvent que nous-mêmes dans nos strats on va aller chercher des petits extraits pour les rediffuser après, donc ça fonctionne bien en natif comme ça, c'est cool.
Ouais, ce qu'il y a ici d'intéressant, c'est que concernant ces clips, eh ben tu peux aussi les partager en externe à YouTube, hein. La fonctionnalité elle marche exactement comme la fonction de partage habituelle d'une vidéo YouTube. Là tu vas choisir le morceau de la vidéo que tu souhaites partager, ensuite tu peux l'embed dans un site par exemple ou la partager sur un autre réseau social genre Twitter, Facebook, etc. À noter, cette fonctionnalité Clips, elle est actuellement disponible en version alpha limitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quasiment pour personne, en fait. Hein. Elle n'est activée que sur un nombre très limité de chaînes. Disons que c'est un test. Et puis, en fonction, YouTube verra s'il déploie plus largement.
Et ben moi, ce lundi matin, j'avais envie de parler de Snapchat. On parle jamais assez de Snapchat, je trouve, qui a racheté l'entreprise Ariel AI. Alors, on le sait, hein, Snapchat, c'est une plateforme innovante. C'est souvent le réseau social qui lance un peu les modes de demain qui sont reprises un peu sur toutes les autres plateformes. Et ben, ces dernières années, Snapchat a investi beaucoup sur la réalité augmentée. La plateforme a des filtres en réalité augmentée de qualité et souvent bien plus variés que ce qu'on peut trouver ailleurs sur Insta ou même TikTok, si TikTok avance là-dessus. Mais maintenant, Snapchat s'attaque à l'intelligence artificielle au service de la réalité augmentée. En effet, CBNC, c'est la maison mère de Snapchat, qui a annoncé le rachat d'une entreprise britannique, comme je disais, Ariel AI, qui est spécialisée en intelligence artificielle, mais pas n'importe laquelle, l'intelligence artificielle, comme je disais, au service de la réalité augmentée. Donc Snapchat continue sur sa lancée. En décembre dernier, la plateforme avait annoncé la création d'un fonds de 3,5 millions de dollars pour la réalité augmentée. C'est quand même énorme, hein. On voit que la compta du côté de Snapchat, bah, c'est plutôt cool, hein. C'est ouvert. L'entreprise a racheté Ariel AI et cette entreprise-là, elle a été fondée à Londres en 2018 par des anciens de Google et de Facebook. Et ce qu'elle fait, cette entreprise, c'est que par exemple, elle a développé une technologie de modèle 3D d'une personne. Toi, Thibaut, par exemple, tu vas te filmer avec ton téléphone et puis ça va faire une modélisation 3D de ta personne et tu vas pouvoir, par exemple, essayer des vêtements. Donc, tu vas pouvoir te mettre des vêtements sur toi, voir si un sweatshirt va bien, une veste, etc. Et c'est notamment ce qu'ils ont développé depuis 2 ans. Et ça, c'est aussi un peu l'avenir du shopping en ligne, hein, de pouvoir essayer des vêtements comme ça. Et donc, Snapchat accélère encore sur ce côté-là et veut continuer de développer du coup les liens entre aussi les données de localisation, notamment avec le rachat de l'entreprise StreetCred, on en avait déjà parlé, et l'amélioration de sa réalité augmentée. Tu te souviens, on avait parlé dans le Super Daily la fonctionnalité local lenses qui avait été lancée. On pouvait peindre les murs d'une rue et donc du coup on utilisait la réalité augmentée croisée avec des données GPS et de la localisation. Et bah le rachat de cette entreprise, c'est aussi pour essayer encore de développer ce côté-là. Voilà. Donc Snapchat avance fort sur ces questions-là.
Intéressant. Allez, on bascule du côté d'Instagram qui vient de lancer un nouveau tableau de bord professionnel. Moi, j'ai vu pas mal passer cette news. C'est une petite annonce, hein. Mais après, c'est quand même intéressant de la souligner. Instagram, concrètement, souhaite offrir une vue d'ensemble plus simple, plus didactique de ses différents outils dédiés aux comptes pro et aux comptes créateurs. Du coup, depuis quelques jours, vous pouvez accéder à un dashboard professionnel qui réunit les différentes fonctionnalités disponibles. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Alors, comme je le disais, pas grand-chose de vraiment nouveau, mais disons que ça ressemble tout en un seul et même endroit. Donc, quand vous allez accéder à votre compte pro ou créateur, eh bien, en haut de l'écran, vous allez avoir un petit lien vous permettant d'accéder à ce tableau de bord professionnel. Et dedans, eh bien, tu as un côté statistique qu'ils appellent analyse de vos performances, hein, où tu vois une courbe du nombre de comptes atteints sur les 30 derniers jours. Et quand tu cliques dessus, eh bien, tu bascules vers la version statistique complète habituelle, hein, qu'on connaît. Tu as aussi des outils pour développer ton business, donc tu as accès à un certain nombre d'outils. Et là c'est là où peut-être c'est le plus intéressant, parce que tu retrouves ces outils qui avant étaient éparpillés à différents endroits dans Instagram, la gestion des publicités, les outils d'approbation de contenu de marque, la gestion des réponses enregistrées, etc. Et puis en fonction des typologies de comptes, tu vas avoir accès à des configurations additionnelles, comme par exemple Instagram Shopping, ou des fonctions de commande de repas. Alors c'est par exemple le cas sur notre compte Super Natif. Aujourd'hui, si on veut, on peut plugger un service Uber Eats, par exemple, et vous pouvez commander votre petit panier Super Natif.
C'est une sorte de business manager pour Instagram, quoi.
Ouais, alors vraiment bébé, hein. Ouais. Et puis, t'as une autre partie qui concerne des ressources dédiées aux professionnels, où là, on t'invite à aller suivre Instagram for Business. Ça vaut le coup, hein, c'est sympa comme compte Insta, il y a pas mal d'insights intéressants. Et puis, tu as évidemment un lien sortant vers les ressources de Facebook. Bon. Là, ça vaut un peu moins le coup. C'est moins rigolo. Voilà.
Moi, je vais enchaîner avec... je vais mettre les pieds dans le plat, hein, parce que c'est une news qui est quand même, je trouve, assez importante et qui risque de peut-être, en tout cas, changer des choses dans le monde du social media de manière pérenne. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Italie avec TikTok. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Thibaut.
Bien sûr.
On sait, les réseaux sociaux en France, par exemple, sont interdits aux moins de 13 ans. On a déjà souvent parlé, on a des discussions là-dessus, notamment avec toi, Thibaut, qui est père, et du rapport que les enfants ont avec les réseaux sociaux. C'est très compliqué d'empêcher des enfants de moins de 13 ans de se créer un compte sur les réseaux sociaux. Il n'y a que les parents qui peuvent un peu surveiller, vérifier ça. Et il existe un peu un flou sur la responsabilité qu'ont les plateformes si un enfant de 10 ans, par exemple, se crée un compte tout seul. Et malheureusement, en Italie, il y a un drame qui s'est passé la semaine dernière en Sicile. Il y a une petite fillette de 10 ans qui est morte asphyxiée en participant au jeu du foulard sur TikTok. Donc, un fait divers assez dramatique où c'est pas vraiment... utile d'insister dessus, mais ce drame, il a suscité beaucoup d'émotions là-bas, et le gouvernement italien a du coup réagi très vite, parce que c'était quand même une fillette de 10 ans qui était sur TikTok et qui a peut-être participé à un jeu auquel elle n'aurait jamais dû participer parce qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Et donc, le gouvernement italien a dû réagir très vite et a annoncé avoir provisoirement bloqué l'accès de TikTok aux utilisateurs qui ne sont pas en mesure de prouver l'âge qu'ils ont, donc l'âge minimal requis pour pouvoir s'inscrire sur l'application. Donc ça changerait quand même quelque chose de fondamental, c'est que on arrêterait d'être sur quelque chose de déclaratif. On a, là aujourd'hui, n'importe qui peut se créer un compte en disant qu'il a 40 ans, personne ne vérifie quoi que ce soit. L'Italie, apparemment, voudrait commencer à changer ça en imposant qu'on justifie de son âge au moment où on s'inscrit sur une plateforme. Alors, on va en discuter, hein, parce que ça peut être quand même... on a du mal à imaginer comment ça va vraiment se mettre en pratique. Est-ce qu'il va falloir scanner ses papiers d'identité pour pouvoir se connecter? Donc, ça sera aussi... Il n'y aura plus du tout de réseau anonyme. Par exemple, Twitter qui peut encore fonctionner juste avec un numéro de téléphone ou même une adresse mail, juste... ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir faire ça, mais en même temps, c'est peut-être mieux pour la protection des mineurs et des moins de 13 ans en particulier. Donc, à voir si ça se confirme, mais ça pourrait peut-être avoir un petit effet boule de neige et changer beaucoup de choses dans différents pays en Europe déjà.
Ouais, vaste sujet. Je sais pas exactement s'il existe la réponse idéale, parce qu'effectivement, ce que tu vas mettre en place pour protéger les plus jeunes, eh bien forcément, sera ennuyeux, voire pénible pour les autres.
Personnelles aussi.
Exactement.
Etc.
Donc ça pose un certain nombre de problèmes, mais c'est sûr qu'il va falloir trouver une solution. Hein. Comme tu le dis, moi je suis papa et c'est un sujet qui me préoccupe. Voilà.
C'est vrai.
Allez, on va basculer du côté de Twitter. Twitter qui lance Birdwatch. C'est un collectif anti-fake news, voilà, depuis plusieurs mois. Twitter, il est en guerre contre les fake news, ça, on le sait, on en a déjà parlé ici. Après avoir supprimé des milliers de comptes, dégagé le bon vieux Donald Trump, eh ben, la plateforme propose aujourd'hui une approche participative pour responsabiliser ses utilisateurs contre la propagation de fausses informations sur sa plateforme. Avec Birdwatch, eh bien, les tweetos ont la possibilité d'identifier les tweets qu'ils jugent trompeurs et de les soumettre à une communauté qui va pouvoir étayer, en tout cas rapporter des arguments étayés pour prouver que c'est une fake news. C'est une espèce de groupe collectif qui va ensemble analyser la véracité de telle ou telle information. Voilà. Si le tweet est signalé plusieurs fois et qu'il y a derrière un consensus de la communauté Birdwatch, eh bien le tweet original va être annoté comme étant faux ou trompeur, et puis une liste de contre-arguments sera disponible en dessous de chaque fake news. C'est assez intéressant. C'est vrai que ça ressemble vachement à ce que faisait Twitter en son nom, mais là, il délègue entre guillemets la modération aux utilisateurs, exactement. Hein.
Mais du coup, comment est-ce qu'ils ont communiqué sur comment on pouvait faire partie de la communauté Birdwatch ?
Tout à fait. Donc, tu peux juste en levant la main. Alors après, ils étudient évidemment. Le principe aussi, c'est de jouer le collectif et donc se dire que même si au milieu il y a un élément perturbateur, un espion de l'alt-right qui se serait infiltré au milieu de la communauté Birdwatch, il serait assez vite détecté. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'après la suppression du compte Twitter de Donald Trump, eh bien, la plateforme elle s'est quand même retrouvée embarquée dans une sorte de polémique qui soulignait aussi le caractère peut-être unilatéral, sans doute, et peut-être même autoritaire de cette décision, hein, celle de couper complètement Donald Trump. Ça a posé souci, en tout cas, ça a suscité des débats. Et aujourd'hui, ben, effectivement, Twitter semble vouloir commencer à déléguer une partie de la responsabilité à ses communautés, c'est intéressant. À noter que Birdwatch, c'est né d'une consultation auprès de plusieurs centaines de tweetos. Hein. Le réseau a mené des entretiens qualitatifs avec plusieurs centaines de personnes. C'est vraiment des entretiens assez poussés avec des utilisateurs de tweetos, avec des personnes de tous horizons politiques, hein, ils précisent, afin de connaître leur feedback et puis de récolter leur soutien au sujet de Birdwatch et de voir comment la plateforme pourrait co-construire quelque chose avec ses utilisateurs. Intéressant.
Ouais, c'est super intéressant. Pareil, là, c'est un sujet vaste, la modération dont on a déjà beaucoup parlé dans le Super Daily. Et là, avoir cette innovation de se dire on va créer un compte et on va co-construire la modération avec les utilisateurs, je trouve ça assez intéressant et assez malin au final de passer par ce biais-là pour arriver à gérer de la modération. Après, il ne faut pas non plus que Twitter s'en lave les mains, quoi.
Ben, c'est ça, parce qu'on le sait, côté Facebook, la modération, elle est gérée par des modérateurs qui sont payés par Facebook, qui sont soit internes, soit externalisés sur la base de contrats.
Métier très, très dur, d'ailleurs.
Mais, ils sont tous en dépression. Ouais. Hein, et ça fait des mois qu'ils râlent en disant on n'est pas en mesure de faire notre métier, épuisant, on n'est pas suffisant, c'est éreintant ce qu'on voit comme image et ce qu'on lit comme conneries. Transmettre ça à la communauté de la part de Twitter, ça fait un peu genre, les gars, maintenant, c'est vous qui gérez.
On vous file le bébé, débrouillez-vous avec.
Voilà ce qu'on pouvait se dire ce matin, les amis. Nous sommes le lundi 1er février 2021.
Une nouvelle vie commence chez Supernatif.
En tout cas, voilà, on est dans des nouveaux locaux au 40 rue Ferrandière. Supernatif acte 2, le Super Daily dans des nouveaux studios.
Et puis surtout, moi, là, quand je vois la tronche des nouveaux studios, je me dis vivement qu'on puisse faire un 100e épisode avec vous, les amis, et qu'on puisse vous accueillir ici, comme on l'a fait à l'époque aux 3 rues de la République.
On a tellement hâte. J'imagine que vous aussi, vous avez hâte qu'on vous paye des bières et qu'on puisse se voir pour le 600e. On vous souhaite à tous une très très belle journée. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux.
À Supernatif, sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok ou Pinterest. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors, n'hésitez pas pour le Super Daily à aller mettre une petite note, un commentaire. On lit tous les commentaires et surtout, parlez-en autour de vous. Il y a plein de potes que ça peut potentiellement intéresser.
On vous embrasse. Salut à tous et à demain.
Ciao.